France Culture, la série musicale Zoé Sfez.
Bonjour et bienvenue dans une émission libre de tous les styles, de tous les récits, de tous les sons, de toutes les audaces à l'image de celles et ceux que l'on écoute aujourd'hui. Une heure de radio sur la musique, en musique. C'est la série musicale, bienvenue. Cette avant-dernière émission de la saison, une envie nous prend d'inaugurer une série sur la manière dont l'évolution du son a changé l'histoire de la musique. Ça paraît être une évidence, mais innovation musicale et innovation technologique sont souvent allées de pair, même si les dynamiques à l'œuvre ont souvent changé, l'une poussant l'autre dans un rapport dialectique passionnant. Évidemment, cela paraît souvent évident a posteriori, mais souvent passionné à regarder dans le détail. On l'avait déjà raconté dans notre émission Grain de Crooner il y a bien deux saisons maintenant. C'est bien parce que le micro a émergé à un moment donné dans les années 30 que la voix des hommes a commencé à changer, à se faire plus douce, enveloppante et basse. Mais l'inverse est vrai aussi. C'est bien parce qu'à un moment donné du XXe siècle, en 64-65 précisément, a surgi dans le monde occidental une génération de jeunes énervés nés pendant la guerre, très, trop différents de leurs parents et qui avaient bien des choses à dire, des choses à hurler face à un monde trop violent, que les amplis, les guitares, les micros et donc le son disponible à l'écoute a fait un saut complètement fou en l'espace de seulement 5 ans. Cette histoire incroyable, c'est justement l'historien Thomas Meyer, grand mélomane, qui la raconte dans un livre génial d'une richesse inouïe paru en ce printemps 2024 aux éditions Le Mot et le Reste. Un livre presque bible qui fait un triple récit des années 65-70, un récit politique, technologique, musical, qui tente de montrer comment et pourquoi on a pu passer en 5 petites années d'un monde dominé par des sons maîtrisés, la country, la variété, les harmonies vocales, où la pop énergique des Beatles semblait presque diabolique, à un horizon sonore décapant où le hard rock, le metal et presque le punk étaient déjà nés. Impossible de rendre justice à ce livre presque totem, mais une évocation dans la série musicale s'imposait de cet ouvrage baptisé « Play it fucking loud, joue-la putain de fort », comme le commandait un jeune Bob Dylan à son groupe The Hoax lors d'un concert à Manchester en 1965, où le public, tellement décontenancé par tout le bruit qu'il produisait, n'hésitait pas à le traiter tout simplement de Judas. Écoutez.
I don't believe you. You're a liar. Yeah.
Bob Dylan en majesté, Bob Dylan en rocker. Like a Rolling Stone est qualifié dans ce livre de Thomas Meyer, mais aussi par l'immense majorité du monde musical qui l'écoute en 65 comme un coup d'état musical. Pourquoi ? Parce que celui que vous entendez ici et qui ordonne à son groupe The Hawks de jouer putain de fort, c'est donc Bob Dylan qui est déjà à l'époque extrêmement connu. Il est né dans une famille juive du Minnesota, il s'est très tôt intéressé au piano, à la guitare, et se forme en écoutant du blues, de la country. Étudiant, il va découvrir la folk, va retrouver un Woody Guthrie mourant, s'installer à Greenwich Village et dès 62 s'imposer dans le monde entier avec le fameux Blowin' in the Wind, lui, une guitare solitaire. Dylan qui réinvente la protest song et qui va devenir le porte-parole d'une génération humaniste, progressiste, avec sa petite guitare et ses cheveux dans le vent. Il est en plus à l'époque le compagnon de John Baez. C'est évidemment l'épure, une forme de pacifisme qui émane de ces deux personnages. Ce qui s'est passé entre 62, Blowing in the Wind, et cette chanson Like a Rolling Stone en 65, c'est un double choc pour Bob Dylan. Un choc politique, l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, qui va l'ébranler profondément, évidemment lui faire peur, comme au reste de l'Amérique, une Amérique toujours ségrégationniste, où le mouvement des droits civiques a lieu, mais évidemment où le climat est très violent. Le deuxième choc, c'est la découverte des Beatles. Les Britanniques, entre-temps, sont passés la même année, en 63, en tournée en Europe. Bob Dylan les a rencontrés, et c'est grâce à cette rencontre, et aussi parce qu'il comprend qu'il se passe quelque chose dans l'énervement politique qu'il a envie de traduire en musique, qu'il entame cette grande tournée avec le groupe The Hawks. Et ce titre, Like a Rolling Stone, Marlon Brando, qui était à l'époque un proche de Bob Dylan, confie: les deux choses les plus brillantes que j'ai jamais entendues, c'est un train de marchandises déraillant et le Bob Dylan and the band. Évidemment, c'est un énorme changement de culture. Là, le concert que vous entendez est issu d'une tournée en 66 pour porter cet album où Bob Dylan se présente toujours dans une première partie acoustique et dans cette deuxième partie extrêmement électrique. Ça va diviser les fans. C'est une bataille d'Hernani musicale moderne qui se joue, qui dit bien d'une certaine manière les deux tensions qui sont à l'œuvre pendant ces cinq années dont Thomas Meyer fait le récit dans Play It Fucking Loud. Cinq années complètement cruciales politiquement, mais aussi évidemment musicalement et technologiquement, bien que ce soit véritablement à l'initiative de cette génération qui est à 20 ans en 65, pour qui le choc est énorme et le choc sera répété. 20 ans donc, une génération qui est née pendant la guerre et qui se sent extrêmement différente de celle de ses parents, qui eux étaient déjà adultes pendant la guerre. Ce sont évidemment les baby-boomers qui ont besoin de dire leur révolte, mais aussi leur désir. Le livre de Thomas Meyer s'ouvre en 62 avec She Loves You, un 45 tours des Britanniques, les Beatles. She Loves You, yeah, yeah, yeah. Il n'y aura que 8 ans de différence entre cette chanson que vous allez entendre et celle qui marque la naissance du heavy metal avec Black Sabbath, de Black Sabbath. She Loves You déjà faisait beaucoup de bruit. C'est l'une des premières chansons à véritablement secouer, voire même à choquer. Les quatre garçons aux cheveux dans le vent sont réputés diaboliques dans l'Angleterre et le monde occidental de l'époque. She Loves You, yeah, yeah, yeah. Le yeah est répété 21 fois. She loves you, yeah.
She said she loves you, and you know that can't be bad. You know you should be glad. You know it's up to you. I think it's only fair. Pride can hurt you too. Apologize to her. You know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad.
Oui, 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 elle t'aime. Dans ce son de 62 qui choque hein, beaucoup, dans l'Angleterre qui va voir naître ce qu'on appelle ensuite la British Invasion, va choquer beaucoup. Ce « yeah, yeah, yeah » traduit quelque chose de simple. On n'a plus tellement besoin de paroles. On a juste besoin de crier, d'exprimer son désir dans sa forme la plus pure. Là, on est en 62 et de 62 à 64, les Beatles ont donné un sérieux coup de collier au son qu'on entend alors dans le monde entier. C'est à ce moment-là que le baby-boomer grandit, c'est dans leur insertion dans l'âge adulte, on va les pousser à s'intéresser à plusieurs choses, à leurs désirs, et c'est ce qu'incarne cette musique des Beatles, mais aussi de plus en plus à des problématiques morales, sociales, culturelles, philosophiques. C'est 65 que Thomas Meyer retient comme l'année où finalement tout bouge. Il y a ce Rolling Stones de Bob Dylan, vous l'avez entendu, ce Rolling Stone, Like a Rolling Stone, le groupe, les Rolling Stones, évidemment, eux aussi débarquent. The Who, qu'on va entendre, tous commencent à utiliser cette guitare électrique comme un espèce de lieu de libération, comme un lieu, en fait, d'électrochoc, de simple chambre d'écho. Elle est devenue un outil de démarcation des baby-boomers. Alors certes, dans un premier temps, pour dire le désir du corps, le désir d'exister dans ce monde. I Wanna Hold Your Hand, c'est 64, une autre chanson d'amour des Beatles. J'ai envie de tenir ta main avec une guitare très brutale. En 65, à peine un an après, un autre groupe anglais, The Kinks, va lui beaucoup plus loin. Il ne s'agit plus de main, ni même d'amour, mais là, il s'agit simplement d'être excité. You really got me, tu me tiens, chante The Kinks. On est dans ce qu'on préfigure, dans ce qu'on considère comme le début d'un rock'n'roll extrêmement puissant, voire même d'un début du hard rock. C'est à l'époque Dave Davis, qui a à peine 17 ans, qui impose ce son très distordu, saturé, vous allez l'entendre, qu'il obtient en lacérant l'enceinte de son amplificateur à coups de rasoir. La légende dit aussi qu'il aurait planté des aiguilles à tricoter, des punaises, tout un tas de choses qui n'ont absolument a priori rien à faire dans un haut-parleur. Il s'agit ici d'inventer un son qui soit à l'auteur de l'énergie avec laquelle on porte sa chanson.
Side. Girl, you really got me now. side. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night.
The Kinks, on est toujours là en Grande-Bretagne. 65, écrit Thomas Mayer, est l'année durant laquelle, de manière massive, les jeunes donc prennent conscience des différences qui les séparent de leurs parents. Et dans les deux années suivantes, ceux que Thomas Mayer appelle les intenses éveilleurs de cette fameuse génération vont mettre en œuvre des productions musicales qui traduisent une palette de plus en plus large de sensibilités, comme toujours l'écrit Thomas Mayer. On a évidemment celle de l'introspection, qui est liée d'ailleurs à l'utilisation, la découverte de produits de plus en plus fous, à l'excitation, voire à la contradiction. Le mélange musical va s'opérer jusqu'à aboutir à ce qu'on appelle le rock psychédélique, qui vraiment explose entre 66 et 67, qui traduit évidemment des désirs d'exploration du côté évidemment notamment des Britanniques, c'est le cas des Beatles, on ne reviendra pas évidemment sur Lucy in the Sky with Diamonds, mais aussi les questionnements, les envies de liberté d'une jeunesse américaine qui se retrouve aux prises avec la guerre du Vietnam évidemment. Alors côté américain, et c'est toute l'utilité de ce livre, émerge plein de figures qui ont été peut-être parfois oubliées dans l'histoire de la musique. Par exemple, écoutez, on est en 65 seulement, ce groupe Count Five, qui est un groupe de garage américain avec cette Psychotic Reaction, qui nous montre bien ce qu'il se joue déjà de l'autre côté de l'Atlantique en 65. vous écoutez ici à la fin de ce premier couplet de la chanson Psychotic Reaction du groupe Count 5, c'est ce qu'on va appeler un rave up, ou un freak out, le moment où la musique ou la structure de la chanson va changer pour illustrer l'état mental complètement délirant, pseudo du chanteur. Le terme de psychédélique naît vraiment dans cette période. La première fois qu'il est apparu, c'était dans un échange épistolaire entre le psychiatre Humphrey Osmond et l'écrivain Aldous Huxley, un grand auteur évidemment de science-fiction et de dystopie. L'idée, c'était de caractériser les états mentaux qui sont nés de l'utilisation de l'acide lysergique. Alors évidemment, tout cela va s'incarner dans ce qu'on va appeler le mouvement de groupe Garage, qui va chercher frénétiquement, et c'est pour ça que son nom est celui-là, des bricolages sonores afin de dérouter l'auditeur. Ce qui se passe évidemment pendant cette année 65 et celle qui suivent, ça va être une espèce d'accélération. Entre 64 et 65, beaucoup de gens innovent, on l'a entendu, c'est aussi bien les Kinks que ce qui va se passer au sein d'un groupe qui va être un laboratoire incroyable. Ce groupe s'appelle les Yardbirds. On est dans un groupe qui va voir passer plusieurs guitaristes, des guitaristes qui s'appellent Eric Clapton puis Jeff Beck. C'est véritablement l'un des lieux où vont s'expérimenter, où vont avoir lieu les plus intéressantes expérimentations à la fois sur le son, sur ce qu'on veut dire et sur comment on le fabrique, alors que, on le rappelle, dans les années 60, les amplis, les guitares, les capacités déjà à produire du son sur scène sont limitées, quoique sur scène, enfin, on peut inventer des choses. Reproduire cela en studio est quasiment impossible et c'est à cette tâche que vont s'atteler tous les groupes. Accélération portée dans les années 65-67 par toute une série de protagonistes, mais aussi, dans un genre qu'on imagine moins, The Mamas and the Papas qui explose avec California Dreaming. On est sur à la fois vraiment la manière dont ce mouvement hippie, le mouvement hippie des États-Unis qui vraiment revendique un contenu politique, un mouvement pacifiste face à la guerre au Vietnam, se saisit des innovations et notamment de la sensation de saturation sonore qui a éclos dans les deux années précédentes. California Dreaming, rêver de Californie. La sunshine pop délicieuse de The Mamas and the Papas et cette flûte hein, de Batshak qui intervient au milieu du morceau qui démarre hein, tout simplement tout poétiquement avec cette petite simple guitare, ce qui ne nous dit pas à quel point la close harmony, la batterie vont jouer un rôle déterminant. Vous entendez bien ici comment le mouvement hippie qui est né et les protest songs se sont finalement habillés hein, de toutes les trouvailles musicales et de l'intensité qui est portée dans ces années 65, 66, 67. C'est les années où vraiment tous ces groupes, aussi bien en Angleterre qu'aux États-Unis, ne cessent d'échanger des tips dans une chronologie absolument géniale que nous donne Thomas Meyer dans son livre, chronologie qui mêle événements politiques, date des albums qui sortent. Évidemment, on voit aussi combien les musiciens de l'époque se connaissent, parlent entre eux, assistent aux répétitions les uns des autres, ce qui influence évidemment la manière dont ils composent et dont ils arrivent à créer le son. L'un des exemples les plus intéressants, évidemment, c'est celui des Rolling Stones dans un album Aftermath qui va vraiment beaucoup faire pour installer les trouvailles musicales et notamment un titre qui reste encore aujourd'hui celui que le groupe joue le plus sur scène, Painted Black. Painted Black, une chanson qui pourrait avoir l'air dépressive si elle ne l'était pas, une chanson qui synthétise hein, la plupart des apports et des innovations qu'évidemment se jouent dans ces années-là. Mick Jagger et Keith Richards vont la composer, cette chanson 65-66, et en fait, il enregistre avec beaucoup d'ajouts mélodiques en 66 seulement, en 66-67, c'est l'explosion. Là déjà, on a les apports qui vont être un peu récurrents dans le rock qui va se jouer un peu partout. partout, y compris chez Jimi Hendrix, l'apport de notes un peu mélodiques, une batterie extrêmement forte qui elle aussi est inspirée des sonorités du Moyen-Orient. Toutes ces versions orientalisantes dans le rythme vont beaucoup être présentes. Il y a une guitare basse avec un overdub de basse qui vont vraiment booster un peu la section rythmique. C'est l'une des caractéristiques de ces 2-3 années et de cette période. C'est vraiment, on l'a dit, il y a les innovations sur les guitares, il y a les innovations sonores et elles vont continuer évidemment. Il y a vraiment une assise rythmique qui commence à s'imposer avec vraiment pour but l'intensification du son. On l'entendait ici dans Painted Black et c'est de là évidemment que vont naître les voix qui mènent au hard rock, au heavy metal. Évolution constante des dynamiques proposées par les batteurs et les bassistes. Alors bien qu'on ait souvent parlé mal de Ringo Starr, cela joue évidemment de manière très forte. Les Rolling Stones vont se faire remarquer pour leur capacité à proposer un côté très tribal dans leur son. On l'entend ici, notamment sur des réinterprétations du rhythm and blues, car c'est l'une des constantes de ces années 60. Toute cette génération va, et notamment les Anglais, va déterrer, réinterpréter énormément des grandes chansons de blues noirs américains, répertoire que plus personne en tout cas n'écoutait et que personne chez les blancs européens n'écoutait. Ce n'est pas un hasard si c'est ce genre de musique qu'ils vont réinvestir. Un autre groupe qui va vraiment beaucoup faire pour l'accélération et l'intensification du rythme, ce sont les Who, avec une paire rythmique inoubliable, Keith Moon et John Entwistle, qui vont vraiment porter le groupe avec une énergie complètement débordante. Ils vont faire souffler un vent nouveau sur évidemment le son de ces années 60. On peut l'entendre dans une de leurs chansons en 67 qui va beaucoup compter, énormément influencer tous les autres musiciens. I Can't See For Miles, une chanson brutale qui va beaucoup influencer notamment Paul McCartney.
I know you deceive me, now here's a surprise. I know that you have, cause there's magic in my eyes. I can see for miles and miles. That I don't know about the little tricks you play, and never see you when deliberately you put things in my way. Well, here's a poke at you, you're gonna choke on it too. You're gonna lose that smile, because all the while I could see for miles and miles. I could see for miles and miles. For miles and miles and miles and miles and miles.
Oh yeah.
You took advantage of my trust in you when I was so far away. I saw you holding lots of other guys, and now you've got the nerve to say that you still want me. Well, that says maybe, but you gotta stand trial, because all the while I could see for miles and miles. I could see for miles and miles. I could see for miles and miles and miles and miles and miles. Oh yeah. Now here's a surprise. I know that you have, cause there's magic in my eyes. I can see for miles and miles and miles and miles and miles. The Eiffel Tower and the Taj Mahal might be
on clear days. You thought that I would need a crystal ball to see right through the haze. Well, here's a poke at you, you're gonna choke on it too. You're gonna lose that smile, because all the while I can see for miles and miles. I can see for miles and miles. I can see for miles and miles and miles and miles and miles and miles and miles.
The Who. I Can See For Miles And Miles, une des chansons les plus agressives, survoltées du répertoire du groupe. La structure musicale est hyper complexe quand vous l'entendez. Plusieurs pistes de guitare, quasiment toutes distordues, une basse répétitive et les fameux roulements de batterie complètement virtuoses de Keith Moon. Des lignes vocales tellement complexes que d'ailleurs le titre n'était quasiment pas jouable pour les Who, qui n'ont réussi à l'intégrer sur leur répertoire scénique que plus d'une année après l'avoir sorti, hein, fin 67, début 68, parce que le groupe avait besoin de deux guitares pour reprendre l'effet qu'ils avaient obtenu en studio. Toutes ces années-là vont être traversées par ce type de problématique. Comment on reproduit en studio ce qu'on a réussi à faire sur scène? Ça va être le cas de Jimi Hendrix, qui, comme vous le savez, peut jouer avec littéralement n'importe quoi quand il est sur une scène. Et inversement, ici, dans le cas des Who, des possibilités de studio qui sont quasiment impossibles à refaire sur scène. Cette chanson est tellement importante qu'elle va beaucoup influencer, par exemple, Paul McCartney, hyper admiratif et qui ne s'en cache pas. C'est grâce au choc que provoque cette chanson qu'il composera plus tard Helter Skelter, probablement l'une des premières chansons de hard rock pour l'album blanc, mais c'est une autre histoire. L'autre groupe que les Beatles fréquentent beaucoup, hein, et si vous avez vu le film de Peter Jackson sur le dernier enregistrement raté des Beatles, vous l'avez vu quand George Harrison, l'un des guitaristes du groupe, propose de partir, il propose à ses camarades d'être remplacé par celui qu'il considère à l'époque comme le meilleur guitariste de tous les temps, j'ai nommé Eric Clapton, qui à l'époque est en train de tout réinventé dans un groupe dont on oublie parfois à quel point il a été crucial, aussi bien dans les innovations musicales que surtout techniques, sur la ligne qu'il offre. Ce groupe s'appelle Cream, et l'un de ses albums va profondément influencer tous ses pairs. On est en 67, écoutez ici Tales of Brave Ulysses, les contes des Ulysses courageux.
Thought the leaden winter would bring you down forever, but you rode upon a steamer to the violence of the sun. And the colors of the sea bind your eyes with trembling mermaids, and you touch the distant beaches with tales of brave Ulysses, how his naked ears were tortured by the sirens sweetly singing, for the sparkling waves are calling you to kiss the white lace nymphs. And you see a girl's brown body dancing through the turquoise, and her footprints make you follow where the sky loves the sea. And when your fingers find her, she drowns you in her body, carving deep blue ripples in the tissues of your mind. Tiny purple fishes run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the hard land of the winter. Her name is Aphrodite, and she rides a crimson shell, and you know you cannot leave her, for you touch the distant sands with tales of brave Ulysses, how his naked ears were tortured by the sirens sweetly singing. Tiny purple fishes run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the hard land of the winter.
Eric Clapton à la barre ici dans le deuxième album de Cream, Disraeli Greer's, novembre 67. Les albums qui vont suivre Wheels of Fire et surtout les concerts américains de la tournée automnale 1967 illustrent, écrit Thomas Meyer, la création du hard rock, on peut le dire. C'est quoi le hard rock en fait? Si on y réfléchit, c'est un blues suramplifié, traversé de longues improvisations électriques. Alors on sait qu'ensuite Eric Clapton va être très fatigué du Star System et fatigué aussi de ce son, de cette inflation sonore qui en réalité est vraiment le fruit de cette espèce d'émulation. En fait, c'est parce que les Beatles ont commencé à aller de plus en plus haut, de plus en plus fort, qu'aussi les maisons de disques se sont mis évidemment au même niveau. Cette espèce d'explosion de 66-70, elle est liée à la volonté des autres maisons de disques, notamment américaines, de suivre évidemment le rythme imposé par la British Invasion. C'est ça qui va faire que tout le monde progressivement va commencer à jouer de plus en plus fort. Alors cette définition du hard rock comme un blues suramplifié traversé de longues improvisations électriques, évidemment, elle parle quand on va s'aller voir du côté de certaines figures, des figures qui ne vont avoir de cesse justement de réinterpréter, de rejouer des grands classiques du blues et les remettre au goût du jour, en évidemment jouer la carte de l'intensité. Parmi ceux qui vont faire ça, il y a un certain Jimi Hendrix. Jimi Hendrix Experience sont les groupes emblématiques qui vont populariser le volume et les saturations agressives en 67, poussant le blues et les amplis Marshall dans leur dernier retranchement, écrit Thomas Meyer, qui montre bien évidemment comment cette explosion de la guitare, qui est vraiment poussée là où elle ne pouvait jusqu'alors pas aller, est accompagnée en même temps par une explosion, une intensification évidemment de la voix, évidemment. Et là, c'est beaucoup les femmes qui vont porter cela. Il y a évidemment la figure de Robert Plant, mais on va y revenir. Ce sont Grace Lee avec Jefferson Airplane, qu'on n'aura pas le temps de passer, et évidemment l'incroyable Janis Joplin, qui elle aussi pousse le blues, et pour le coup plus la voix dans ses derniers retranchements. Elle qui idolâtrait Bessie Smith, hein, qui tentera de lui créer une pierre tombale. Janis Joplin est repérée, révélée au monde entier, exactement comme Jimi Hendrix au festival de Monterrey. On est en 67, et à l'époque, justement, la chanteuse de California Dreamin', la chanteuse principale des Mamas and Papas, vont dire waouh, ça envoie. À ce moment-là, c'est exactement ce titre qu'elle chante.
Thank you. just looking out at the rain. Sitting down by my window, just looking out at the rain. Some came along on the grand ornament, and it fell like a ball and shade.
L'émergence de Jimi Hendrix et de Janis Joplin est en même temps une année de rupture, explique Thomas Meyer, car les contestations avaient mûri, les sociétés ne sont plus uniquement questionnées par les jeunes, certains attaquent carrément les symboles de l'autorité. Jusque-là, en fait, il y a eu une convergence entre l'intensification du son et de la pop musique et l'actualité. Effectivement, cette intensification, elle était souvent liée à une volonté de contestation. Dans les deux années qui suivent, 67-68, naissance des premiers groupes de hard rock qui continuent à faire fumer les amplis, mais cette fois-ci, il n'y a plus vraiment de lien avec la politique. C'est le cas des groupes comme Jeff Beck, qu'on ne va pas pouvoir écouter, et vraiment, c'est scandaleux, on s'en excuse, mais aussi, évidemment, l'incroyable groupe Led Zeppelin, qui tous proposent la même formule, composée d'énormes volumes sonores, sans aucun message politique pour le coup. Tellement intenses, qui vont bientôt se terminer, puisque là, après le festival de Woodstock et le désastre d'Altamont, énorme échec de cette union de la première électrification de la pop et des utopies hippies, écrit Thomas Meyer. Il y a évidemment en 70 un tournant, déclin de la disparition des grands artistes, souvent à cause de l'héroïne, mais aussi avec un virage conservateur entamé par la plupart des gouvernements à peu près partout dans le monde occidental. Les Beatles, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison vont quitter la scène et vont être remplacés par d'autres musiciens. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Black Sabbath D'un côté, les Stooges, de l'autre, vont de tracer deux voies qui vont aboutir à peu près tous les courants de musique, de hard rock, de metal qui existent aujourd'hui. Il ne faut pas oublier, écrit Thomas Meyer, qu'au contraire, auraient des intenses éveilleurs de ces quatre premières années qui voulaient remplacer, reconstruire une nouvelle société. Les musiciens des banlieues industrielles de Birmingham d'un côté et de Détroit de l'autre ne cherchent, eux, qu'à rejeter le monde dans lequel ils sont, à en punir les responsables, voire à le détruire totalement. Plus cru que d'habitude, mais chaque morceau possède un sens de l'intuitif qui offre à ce disque un caractère immédiat, urgent, dont manque aujourd'hui la plupart des groupes au-delà de la frénésie. Dès que vous cherchez à détailler les lignes mélodiques, les accords, souvent presque noyés dans ce torrent furieux, vous pouvez remarquer que rien n'est fait à moitié, rien ne dérape. Rien n'est mal fichu. Écrit-on à sa sortie, Lester Banks, le rédacteur du magazine Cream, de ce disque qui est aujourd'hui considéré comme l'un des plus importants de tous les temps. On est en 70 et donc The Stooges viennent d'inventer sans doute le punk rock en cette année 70. Beaucoup de choses se passent. Il reste évidemment groupes, notamment Crosby, Stills, Nash & Young avec Ohio qui eux aussi font une protestante testostéronée à l'intensification du son qui reste politique. Mais les deux grandes tendances, ça va être celle imposée par les Stooges, Estelle, imposée par un groupe Black Sabbath, dont l'album Black Sabbath est sorti, le titre Black Sabbath du même nom est sorti début 70 et qui va s'affirmer encore avec la sortie d'un titre Paranoid à la fin de la même année qui lui annonce évidemment installe le heavy metal. Black Sabbath qui va évidemment lui aussi asseoir un monde où la politique n'a plus vraiment sa place. Il s'agit surtout de broyer du noir, de le mettre à distance, de faire peur. Vous noterez que l'intensification du son est toujours là, mais qu'en revanche, le rythme, lui, a beaucoup ralenti. Et oui, c'est un scandale, on est obligé de couper cette musique. Le livre de Thomas Meyer, Play It Fucking Loud, est bien plus riche que ça. On vous invite à aller le découvrir aux éditions Le Mot et le Red, 65-70 de la pop au heavy metal. Cette émission a été réalisée par Louise André avec au platine Ludovico G. C'est Lou que vous viez, l'attaché de production de la série musicale. Et on a été accompagné cette semaine par Baburek Wacket pour notre plus grand plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez podcaster cette émission sur toutes les applis, mais on préfère celle de Radio France. À la semaine prochaine. Thank you.